histoire surprenante des contes de fées, Jean-Louis Lahaye.
En avant les amis, nous partons pour le pays imaginaire.
Quand on a peur, on crie, on pleure. Sorcière, sorcière.
Il y avait des loups dehors, il y avait des loups dehors, des grands loups carnivores.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre série « L'histoire surprenante des contes de fées ». Installez-vous bien confortablement dans votre voiture ou sur votre canapé. Allumez un feu ou mettez les sièges chauffants, prenez vos enfants ou petits-enfants sur vos genoux et laissez-vous bercer par ces magnifiques histoires qui ont marqué notre enfance. Et pour les plus grands, en deuxième partie d'émission, nous vous dévoilerons la face cachée de ces contes de fées. Amour, aventure, magie bien sûr, mais aussi cannibalisme, meurtre, suicide. Avec nos experts, nous découvrirons les versions originales de ces contes et tous leurs secrets. Oud-de-Lali ! Voici le prince des voleurs qui vient dérober aux riches pour nourrir les pauvres. À Nottingham, en Angleterre, on chuchote son nom, mais personne ne dévoilera jamais où il se cache. Vous l'aurez deviné, ce justicier au grand cœur, c'est Robin des Bois. Ou plutôt, devrais-je dire, Robin à la capuche. Car chez nos amis anglophones, on parle bien de Robin Hood avec un H et non Robin Wood. Hood désignant la grande capuche qui le couvre lui ou ses méfaits. Et oui, car Hood veut aussi dire truand en anglais. Enfin, quoi qu'il en soit, notre brigand de la forêt de Sherwood est bien énigmatique. Tantôt simple brigand issu de la gent rurale, tantôt présenté comme le noble seigneur de Locksley, il est devenu le héros le plus célèbre du Moyen-Âge. Il a inspiré bon nombre de ménestrels, de poètes, d'écrivains et plus récemment de réalisateurs. Alors toutes ces ballades, ces histoires et ces films font-ils écho à un personnage de fiction? Ou Robin des Bois a-t-il vraiment existé? Une chose est sûre, il incarne cette lutte des classes qui n'a jamais cessé de diviser les hommes. Et à travers la légende de ce hors-la-loi, c'est tout un pan de l'histoire d'Angleterre qui se dévoile. À présent, écoutez bien, je vais vous conter les aventures de Robin des Bois. Il était une fois en Angleterre un bon roi qui s'appelait Richard Cœur de Lion. Quand ce dernier partit pour les croisades, il confia le royaume à son frère, le prince Jean. Mais le perfide prince Jean en profita pour lui usurper sa couronne. Assoiffé d'or, il n'eut de cesse d'augmenter les impôts afin d'enrichir sa fortune personnelle. Les pauvres gens ne pouvaient plus payer. Ils avaient faim et froid. La misère s'abattit sur le royaume. Le peuple d'Angleterre plaça alors tous ses espoirs en un justicier, un homme du nom de Robin des Bois. Avec son fidèle compagnon, un bonhomme aux allures de gros ours mal léchés qu'on appelait, malgré cela, Petit Jean, Robin des Bois dérobait aux riches pour nourrir les pauvres. Il sévissait au nez et à la barbe du terrible shérif de Nottingham avant de se réfugier au cœur de la forêt de Sherwood, où jamais ce dernier ne le trouverait.
Robin avec Petit Jean au bois se promène. Ils s'en vont le cœur content et devise gaiement. Des souvenirs du passé heureux ils se souviennent. Oh dilali, quel beau jour vraiment. Pourquoi redouter l'eau calme et bleue de la rivière qui paraît en se complaire à leur jeu? Qui peut se douter que l'ombre est douce et familière cache un gros shérif au dessin belliqueux? Robin avec Petit Jean file à toutes jambes, écartant tout en courant les branches et les haies. Puis au tournant d'une allée disparaissent par enchantement. Oh dilali, quel beau jour vraiment. Oh dilali, dalali, quel beau jour vraiment.
Un jour, alors que Robin des Bois et Petit Jean préparaient leur prochaine embuscade sur le chemin qui longeait la forêt de Sherwood, ils tinrent cette discussion.
Oh, tu sais, Robin, je me demande si c'est vraiment bien ce que nous faisons. Je veux dire détrousser les riches pour nourrir les pauvres.
Quoi ? Que dis-tu, petit Jean ? Mais nous autres, nous empruntons seulement à ceux qui ont trop de fortune.
Mais écoute, attends, écoute, j'entends le carrosse approcher. Ah, voilà qui annonce une belle journée pour les pauvres. Ce n'était pas un simple carrosse qui arrivait, mais bien celui du prince Jean lui-même. Il était précédé et suivi de près par une vingtaine d'hommes armés jusqu'aux dents. Dans le véhicule, le prince Félon comptait le nombre de sacs d'or fraîchement collectés le matin même. Il jubilait.
Des taxes, oh que j'aime les taxes !
S'exclamait le prince Jean en faisant couler les pièces d'or entre ses doigts. Il se tourna vers son proche conseiller, un homme ayant tant le faciès que la langue d'un serpent et qu'il avait surnommé Persifleur.
Oh, voilà une bien belle récolte, n'est-ce pas, Persifleur ?
Oui, votre Altesse, oui. On peut dire que vous dérobez aux pauvres pour nourrir les riches.
Oh, quel esprit tu as, Persifleur ! Et quelle est donc notre prochaine étape ?
Nottingham, votre grandeur.
Oh bien, ah ça c'est bien. Oh, c'est une étape qui rapporte, Nottingham. Tiens, nous arrêtons déjà ?
S'étonna le prince Jean. Et en effet, le carrosse royal venait de freiner brusquement.
Majesté,
annonça un soldat à la corpulence d'un rhinocéros.
Un arbre entrave notre chemin. Nous ne pouvons continuer. Il nous faut le déplacer.
Pendant que les gardes s'attelaient à la lourde besogne de déplacer le tronc d'arbre, Robin des Bois et Petit Jean passèrent à l'attaque. Discrètement d'abord. Malin comme un renard, Robin parvint à subtiliser les sacs d'or alors que le prince Jean regardait par la fenêtre. Réalisant la supercherie, ce dernier hurla.
« Garde ! Garde ! C'est une attaque ! Attrapez-moi ces bandits !»
Mais les gardes, sous leurs épaisses armures, étaient bien moins agiles que nos deux compères qui prirent leurs jambes à leur cou et filèrent avec le butin dans l'épaisse forêt de Sherwood. Il fut vite annoncé, affiché et placardé, dans tout le royaume, et en particulier à Nottingham, que la tête de Robin des Bois était mise à prix et que le prince Jean offrait une belle récompense à qui fournirait la moindre information sur le voleur. Mais que pouvait un prince, cruel de surcroît, contre un justicier qui défendait les opprimés ? Si tout le monde à Nottingham connaissait la cachette de Robin, personne n'en dévoilerait jamais le secret. D'ailleurs, la plupart des habitants de la bourgade étaient de mèche avec le célèbre voleur. C'était le cas, par exemple, du brave frère Tuck, un petit moine ressemblant à une taupe qui était chargé de redistribuer en secret le butin dérobé.
« Ouvrez, brave corneau, c'est moi, frère Tuck, j'ai quelque chose pour vous. »
La petite porte d'une maison quasi en ruine s'ouvrit craintivement. Un vieil homme aux yeux de chien battu apparut dans l'embrasure. En voyant le petit moine, il sourit et ouvrit grand sa porte pour le faire entrer.
« Tenez, mon brave !» dit le frère Tuck, en tendant à l'homme un petit sac. « Voici quelques pièces pour vous acheter à manger. C'est Robin des Bois qui vous l'offre, afin de... »
Mais il n'avait pas fini sa phrase que l'on frappait encore la porte.
« Ouvrez !»
dit une voix amusée.
« C'est moi, le shérif de Nottingham !»«
Vite, corneau !» chuchota frère Tuck. « Cachez l'argent dans vos bottes !»
Frère Tuck alla ouvrir. Un homme immense, à la longue chevelure noire, s'invita dans la petite maisonnée.
« Recevez les salutations amicales de votre collecteur de taxes !»
s'écria le shérif avec une bonne humeur qui n'augurait rien de bon.
« Oh, shérif, soyez généreux avec moi !»
implora Corneau.
« Je suis vieux et je ne peux plus travailler. J'ai donc rien à vous donner. »
« Vraiment ?» demanda le shérif joueur. « Approchez donc, vieil homme, nous allons voir ça. »
Hélas, en marchant vers le shérif, le pauvre corneau fit tinter les quelques pièces cachées dans ses bottes. Cela n'échappa pas à l'oreille de loup de notre collecteur de taxes.
« Laissez-moi donc vous aider, vieux corneau !»
Et le shérif assit de force le vieillard sur une chaise. Il lui souleva les jambes et tout l'or caché dans ses chaussures tomba par terre.
« Oh, ils ne savent plus quoi inventer !»
dit le shérif, plus pour lui-même que pour le vieil homme.
« Sans cœur, fils de Satan, comment osez-vous ? »
s'écria frère Tuck.
« Allons, allons, garde ton sermon pour le jour du Seigneur, prêcheur !»
Et le shérif s'en fut, satisfait de sa collecte. En sortant de la maisonnée, le shérif de Nottingham ne fit pas attention au mendiant boiteux et aveugle qui s'approchait, tâtonnant le sol irrégulier de sa vieille canne toute tordue. Une fois le shérif parti, l'aveugle frappa à son tour à la porte de Corneau. Frère Tuck ouvrit.
« l'aumône pour un pauvre !»
réclama le vieil aveugle.
« Hélas, mon brave, nous n'avons plus rien à vous donner. Le shérif est passé par là. Mais entrez, venez donc vous reposer. »« Le shérif vous a donc tout pris ?»«
Eh bien, que justice soit faite. Je viens vous rendre ce qui a été volé. » Et Robin des Bois apparut sous la large capuche qui couvrait le vieux mendiant. Il tendit aux frères Tuck et aux pauvres corneaux deux sacs remplis d'or. « Tenez bon et reprenez courage, mes amis !» ajouta Robin des Bois. « Le bonheur reviendra en Angleterre. »«
Oh, Robin, vous risquez votre vie pour que nous gardions espoir. Que Dieu vous garde !»«
Un jour, le roi Richard reviendra. Le prince Jean et le shérif paieront pour ce qu'ils ont fait !» promit Robin. Non loin de là, dans son château, la belle Lady Marianne, nièce du roi Richard, accompagnée de sa dame d'honneur, dame Gertrude, aidait aussi en cachette les pauvres habitants affamés du royaume.
« Dame Gertrude !»
appela Lady Marianne.
« Dame Gertrude, avez-vous fait bien distribuer les vivres et les couvertures que je vous ai confiées ?»«
Oui, madame, c'est chose faite. Personne ne nous a vus.
Et avez-vous reçu des nouvelles récentes de Robin ?»
demanda timidement Lady Marianne.
« Non, madame, pas depuis que nous sommes rentrés de Londres. »
Devant la mine attristée de la belle Marianne, elle reprit.
« Madame, ne vous inquiétez pas. Je suis sûre qu'il vous aime encore. Oh, j'ai bien peur qu'il ne songe plus à moi. Cela fait si longtemps que mes parents m'ont envoyé là-bas. Il m'a sûrement oublié.
Pas Robin des Bois. Il viendra et vous emmènera dans la forêt de Sherwood, vous verrez. Un prochain jour, votre oncle, le roi Richard, aura un hors-la-loi comme neveu par alliance.
Au même moment, dans la forêt de Sherwood.
Tu verras, Robin. Un jour, le roi Richard t'aura comme neveu par alliance,
s'écria Petit Jean.
Bilvesé, Petit Jean. Belle Marianne m'a sûrement oublié.
Arrête de te morfondre et va donc demander la main de la demoiselle,
l'encouragea Petit Jean.
L'épouser ? Ne l'approche pas ainsi une jeune lady en lui disant « Hé, nous étions fiancés, tant enfant, épousez-moi » Et puis, qu'ai-je à lui offrir, Je ne suis jamais qu'un hors-la-loi.
Non, voyons, Robin, viendra le jour où l'on dira de toi que tu es un héros. Écoute, demain, le prince Jean organise un tournoi de tir à l'arc. Je me disais que tu pourrais le remporter, les mains liées, non ? Belle Marianne sera là et doit donner un baiser au vainqueur.
Un baiser ? Out de la lie ! S'écria Robin. Vite un déguisement, mon archer et mes flèches. Je gagnerai le tournoi, foi de Robin des Bois. Depuis sa tribune aux tentures dorées, le prince Jean jubilait.
Persifleur, ce jour est à marquer d'une croix. Mon plan pour capturer Robin des Bois est un trait de génie. C'est l'heure de la vengeance.
Votre grandeur est grande, majesté, siffla le conseiller du roi. « Je m'en vais faire annoncer le début du tournoi. Nous n'aurons plus qu'à capturer le gagnant, qui sera sans nul doute Robin des Bois. »
Les candidats du tournoi s'avancèrent devant la tribune royale afin d'être présentés au prince Jean, ainsi qu'à Lady Marianne. Robin, caché sous une grande capuche et affublé d'une fausse moustache, était méconnaissable. Sauf pour Lady Marianne, qui en un regard reconnut son amour d'enfance.
« Votre Altesse !» « Le tournoi est prêt !»
annonça le capitaine de la garde du prince, un grand costaud, avec un cou et une mâchoire de crocodile.
« À votre signal, nous pourrons commencer !»
Le prince lui fit un signe de tête. Le capitaine à la mâchoire de crocodile se tourna vers les spectateurs.
« Braves gens, que le tournoi de la flèche d'or commence !»
Une première salve de flèches siffla, et la plupart atteignirent les cibles plantées au fond d'un large terrain. Une autre salve partit, puis encore une autre. Petit à petit, des archers quittaient le tournoi pendant que d'autres continuaient de tirer vers les drapeaux de couleur vive. Certains archers commençaient à se démarquer, envoyant systématiquement leurs flèches vers le centre de leur cible. Bientôt, ils ne furent plus que deux finalistes. Le shérif de Nottingham et Robin des Bois. On fit reculer la cible de 30 pas. Le shérif visa et envoya sa flèche dans le mille. Robin devait faire mieux. Il visa et tira. Et sa flèche vint se planter sur celle du shérif qui se brisa en deux et tomba de la cible. Robin des Bois avait gagné. Le capitaine de la garde du prince vint escorter le gagnant jusqu'à la tribune royale.
« Archer, je te fais mon compliment !» s'exclama le prince Jean. « Ton adresse te fait mériter l'insigne honneur auquel tu as droit. Notre royale félicitation ainsi que le baiser de Lady Marianne et la flèche d'or !»
Le prince dégaina son épée. Il la posa sur l'épaule droite de Robin.
« Je te proclame donc gagnant !» Ou plutôt, devrais-je dire, perdant.
Et là-dessus, le prince déchira de son épée la grande capuche qui couvrait la tête de Robin. Robin des Bois était découvert.
Garde, garde, saisissez-le. Robin, je te condamne à une soudaine, rapide et immédiate mort,
ajouta le prince jovial. Là-dessus, Lady Marianne se jeta aux pieds du prince Jean.
Pitié, sire! Épargner sa vie.
Et pourquoi le ferais-je, Lady Marianne?
Parce que je l'aime, votre Altesse,
répondit Marianne en pleurant.
Et ce prisonnier est-il amoureux de vous?
Lady Marianne et le prince Jean se tournèrent en même temps vers Robin, déjà entouré d'une dizaine de soldats.
Marianne, mamie, je vous aime plus que ma propre vie, répondit tristement Robin.
Oh, votre appel à la clémence est touchant,
se moqua le prince Jean.
« Mais les traîtres à la couronne doivent mourir »
ajouta-t-il férocement. « Traître à la couronne? C'est vous le traître !» s'exclama Robin. Et il hurla
« Longue vie au roi Richard !»
Et soudain, comme un écho, toute la foule s'exclama en chœur
« Longue vie au roi Richard! Longue vie au roi Richard! Longue vie au roi Richard !»«
Assez !»
hurla le prince Jean, perdant son sang-froid.
« Qu'on lui coupe la tête !»
Le bourreau, muni de sa hache et caché par une grosse cagoule noire, s'avança. Le silence s'abattit sur la foule. Tous retenaient leur souffle. C'est alors que le fidèle Petit Jean fit son entrée. Ou plutôt, diversion. D'un coup de couteau, il coupa une des cordes de la tente royale qui s'effondra sur une partie des invités qui se mirent à crier. Profitant de la mêlée, Robin parvint à s'échapper des griffes de son bourreau. Il saisit la main de Lady Marianne et ils s'enfuirent à cheval vers la forêt de Sherwood.
N'étions encore que deux enfants.
Oh Robin, est-ce Céan la forêt de Sherwood?
Oui, mamie, c'est là que nous vivons.
Comme c'est romantique.
Lady Marianne, voulez-vous m'épouser? Demanda Robin en sortant de sa poche une fine alliance d'or.
Oh Robin, je désespérais que vous me le demandiez un jour. Oui, évidemment.
Longue vie aux amoureux!
S'écria alors une voix goguenarde dans un gros buisson. On vit alors dépasser la tête de frère Tuck.
Longue vie aux fiancés!
Reprirent en chœur Petit Jean, Dame Gertrude et tous les compagnons de Robin qui sortirent un à un des buissons autour d'eux.
Et au diable, l'horrible prince Jean!
Quand on parlera de ce prince Jean qui fut un temps le roi, chacun dira de ce gredin quel triste souverain. Tandis que le bon roi Richard se bat chez les barbares, nous sommes saignés à blanc par ce bon à rien de Jean. Plus bête qu'une oie, sans foi ni loi, au-dessous du pire, on l'appellera Messire, le roi de mauvaise aloi.
Maudit soit le roi de mauvaise aloi.
Les semaines passèrent. Nos compagnons et les habitants de Nottingham vécurent heureux, tous ensemble, dans la forêt de Sherwood, les plus jeunes prenant soin des plus vieux. Ils vivaient de pêche, de chasse, et de nombreux larcins que Robin des Bois continuait d'organiser au détriment du prince Jean. Humilié et en colère, ce dernier et le shérif cherchèrent longtemps la tanière de nos brigands, en vain. Et puis un jour, des trompettes sonnèrent. Le roi Richard, cœur de lion, rentrée de croisade. Le bon roi mit fin à la tyrannie de son jeune frère, leva les impôts et l'on put enfin rentrer chez soi, sans craindre de représailles ou la venue de collecteurs.
On raconte enfin que c'est le roi Richard en personne qui conduisit Lady Marianne à l'hôtel quand elle épousa, enfin, notre voleur au grand cœur.
L'interview vérité.
Nous venons d'entendre l'histoire de Robin des Bois façon Disney. J'aimerais maintenant accueillir notre experte en compte. Bonjour Gaëlle Rucquoy.
Bonjour Jean-Louis.
Gaëlle, vous êtes diplômée de l'école du journalisme IEX. Aujourd'hui, vous êtes en charge de l'ASBL de Livre en Livre et depuis une dizaine d'années, vous êtes aussi conteuse pour des enfants défavorisés. Alors Gaëlle, vous nous en dites un peu plus sur Robin des Bois. D'où nous vient cette histoire d'abord ?
Eh bien, Robin des Bois nous vient d'Angleterre. Les premières œuvres littéraires conservées qui racontent ses aventures datent du XIVe siècle. Mais on sait que la majorité de la littérature médiévale est orale et donc bien avant ses écrits, il existait déjà des légendes et des chansons sur notre héros, racontées en rimes et qu'on appelait des ballades.
Oui, mais qui est Robin des Bois, notre brigand au grand cœur ?
Oui, alors brigand au grand cœur, ça n'a pas toujours été le cas. Dans les premiers écrits, Robin est quand même un personnage plutôt sanglant. Il détrousse les riches pour son propre compte, il tue avec flegme. Dans une ballade, par exemple, il transperce d'une flèche le shérif avant de le décapiter. À un autre, il lui tranche la tête et la pique à la pointe de son arc pour la mutiler et la défigurer avec son couteau. Bon, évidemment, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est au Moyen-Âge, c'est une époque où on torture des gens sur la place publique et on expose des traites sur des gibets à l'entrée des villes.
Mais on est loin de mon héros sympathique que je connais, moi.
Oui, mais pourtant, même cruel, dès les premières ballades, il est déjà un héros, justement. Même s'il vole pour son propre compte. En fait, c'est un hors-la-loi et donc le symbole de toute une rébellion. Alors, pour vous donner un peu de contexte, du XIIIe au XIVe siècle, la condition des paysans anglais est très difficile. Et à plusieurs reprises, ils se révoltent contre les seigneurs, le servage, les impôts. C'est l'époque, en fait, de la grande famine. Et donc, cette dimension subversive chez Robin, eh bien, elle fait écho à cette réalité historique. Ensuite, ce qui est fantastique, c'est que chaque époque va façonner son propre Robin des Bois. De paysan cruel, il passe à gentleman romantique avec la belle Marianne. Et puis, grâce au raffiné théâtre élisabétain, il devient même le noble Robin de Locksley. Et aujourd'hui, il est l'homme sexy qui ressemble plus vraiment au profil type de l'homme médiéval.
Ah oui, d'accord. Mais la question que tout le monde se pose, est-ce que Robin a vraiment existé ?
On n'est pas vraiment sûr. De nombreux historiens et archivistes se sont effectivement penchés sur la question, et ça dès le début du 19e siècle. Alors, ils ont retrouvé des traces de l'existence de Robin, et plutôt des traces d'ailleurs que des preuves, et c'est ce qui fait que c'est pas très convaincant. Par exemple, il y a des archivistes qui ont retrouvé la trace d'un certain Robin Hood, qui était au 14e siècle le valet de chambre du roi Édouard II. Alors, fatigué de la cour, il s'est un jour retiré dans la forêt. Maintenant, l'histoire ne dit pas s'il est devenu un hors-la-loi. On a aussi retrouvé un parchemin datant de la même époque et mentionnant cette fois un Robin Hood, mis en prison pour non-paiement d'une dette. Alors, il y a aussi des chercheurs qui pensent que l'origine de Robin des Bois serait en fait la vie de Fulke Fitzwarren, un noble normand déshérité qui est devenu un hors-la-loi et l'ennemi principal du prince Jean sans Terre. Bon, quoi qu'il en soit, on retrouve tellement de références à un certain Robin Hood, qu'il est même possible que Robin des Bois soit devenu un surnom en fait donné à des proscrits. Peut-être en l'honneur du héros des ballades d'antan.
Merci pour ces infos précieuses. Enfin, pas trop, j'espère. On ne veut pas que Robin nous les vole. Et à bientôt, Gaëlle.
À bientôt, Jean-Louis. Merci.
La morale de l'histoire.
En tout temps, que l'on soit roi, noble, paysan, commerçant, Robin des Bois nous a séduits et séduit encore. Tantôt un paysan révolté contre les seigneurs et le clergé. Tantôt un comte dépossédé, incarnant le mécontentement de la noblesse envers la monarchie, notre archévêque vise à chaque fois dans le mille. Car plus qu'un simple personnage historique ou de fiction, il est un justicier intemporel, résistant aux abus de toute forme d'autorité. Ainsi, combien même son histoire a été modifiée au cours des siècles, l'essence en reste la même. Ce hors-la-loi vole aux riches pour donner aux pauvres. Voilà. Voilà, vous savez tout ou presque sur notre bandit préféré. Je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de l'histoire surprenante des contes de fées.
Ainsi finit l'histoire. C'est tout.